genèveactive.ch.
Jean Nouvel, pour le projet de Lyon, vous aviez choisi justement de vider cette partie de l'opéra. Et maintenant que vous vous trouvez confronté avec le musée de Genève, vous avez choisi de remplir la cour intérieure. Quel est votre système ou stratégie pour intervenir sur des bâtiments existants ?
Oui, mais Lyon, c'était un sujet très particulier parce qu'il fallait garder les quatre façades. Je n'avais que les quatre façades à garder. J'ai choisi de garder le foyer aussi. Mais la vraie polémique de Lyon à l'époque, c'était que j'avais choisi de construire au-dessus du bâtiment aussi. C'est-à-dire avec une grande voûte vitrée qui rentrait dans la composition de l'axe de l'hôtel de ville de Mansart. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à Lyon, il y a eu un sondage il y a 3 ou 4 ans et que maintenant le deuxième bâtiment préféré des Lyonnais après Fourvière, c'est l'Opéra de Lyon. Bon, ce qui prouve que les choses sont quand même... tout à fait à avoir avec un peu de recul dans ce domaine qu'est l'architecture. Je pense que ce qui est important, c'est d'enrichir les villes. Chaque génération doit laisser sa trace dans une ville et doit témoigner de la vie de son époque. Et l'architecture, c'est une des traces les plus évidentes qui restent de ces sensations et de ces attitudes.
Avec votre intervention dans le musée d'art et d'histoire, vous allez faire passer le musée donc de Camoletti dans le 21e siècle. Comment peut-on qualifier l'intervention qui vont symboliser ce passage ?
Ben écoutez, c'est une opération très respectueuse, hein, puisqu'ici il ne s'agit pas de démolir le musée, au contraire, mais il s'agit de construire en son cœur. Hein, c'est-à-dire que c'est une opération de révélation d'abord, parce que c'est le plus beau bâtiment beaux-arts de la ville, et il s'agit de travailler à sa restauration et aux restaurations de toutes ses sensations, de tous ses détails, de travailler aussi sur la muséographie dans l'esprit de certaines muséographies qui existaient lors de son ouverture, en contraste avec d'autres muséographies beaucoup plus vivantes. Et c'est aussi d'étendre les surfaces de ce musée de près de 70%. Avec de nouveaux espaces pour l'art contemporain, pour les expositions temporaires, pour des forums et des rencontres, pour un belvédère, pour un restaurant, pour un nouveau hall d'accueil qui est extérieur et qui permet une vraie vie moderne d'un musée qui doit être un fragment de la ville aujourd'hui. Un musée, c'est comme un quartier de ville. C'est pas un bâtiment qu'on ferme et qu'on cadenasse comme ça. Bon, donc il y a là à la fois l'accentuation de l'œuvre de Canaletti. Et ce qui se passe souvent dans les grands bâtiments culturels ou cultuels ou officiels, ils se font en plusieurs époques. Quand vous regardez les cathédrales ou quand vous regardez les hôtels de ville ou les palais, etc., c'est rare qu'ils soient faits en une seule époque. C'est un enrichissement et que, en fait, ce musée va passer dans une autre époque, dans une voie qui est très classique. C'est-à-dire que rarement les grandes institutions ou les grands bâtiments culturels ou cultuels ou administratifs se sont faits sur une seule époque. La plupart des grandes compositions sont sur plusieurs époques. Donc là, il y aura une époque début du 20e, une époque début du 21e. Bon. Et les deux vont se révéler. L'une va révéler l'autre, je veux dire.
Et au niveau de la muséographie, comment cela se passe-t-il avec celle du siècle précédent ? Faut-il changer ? Est-ce que les deux muséographies de conception vont cohabiter ?
Moi, je défends la thèse comme quoi il faut garder, les saveurs d'une muséographie initiale, qui sera évidemment transformée et complétée par d'autres muséographies dans d'autres salles. Donc. Mais que le témoignage du XXe siècle, du début du XXe siècle, c'est pas uniquement les murs, c'est aussi ce qu'il y avait dedans et la façon dont c'était montré. Mais ça ne concerne pas toute la muséographie, évidemment, ça concerne certaines salles. Et au-delà de ça, on rajoute près de 70% de surface pour l'art contemporain, pour les expos temporaires et pour un grand forum. Donc là, ça va être une muséographie beaucoup plus libre et beaucoup plus vivante et beaucoup plus totalement contemporaine, baignée de lumière. Et le contraste entre les deux vocabulaires et les deux expressions créera à la fois vie et sensation.
Alors en créant aussi à l'extérieur, pardon, pas que des murs, en créant à l'extérieur une sorte de hall et le restaurant panoramique sur le toit, sur la terrasse, est-ce que vous voulez, en dehors de la partie de visite des collections, voulez-vous créer un nouveau lieu de vie, une nouvelle perception par ce qu'on ne peut plus appeler des visiteurs, mais des personnes qui utilisent autant le musée que son restaurant que l'extérieur?
Oui, on va créer un but de promenade pour les Genevois. C'est-à-dire qu'on va venir voir d'abord un grand parc qui est en liaison avec le musée, un parc de sculptures. On va venir voir un grand espace vitré qui correspond à un hall dans lequel il y a beaucoup de choses à voir, à acheter, etc. Et puis on va créer ce belvédère. C'est vrai que voir la ville depuis son centre, comme ça, c'est pas si fréquent. Moi, ce que j'aime bien, ce sont les différences, les spécificités. J'aime bien les villes pour ce qu'elles sont. Les villes sont comme les personnes, finalement. Elles ont chacune leur personnalité. Genève a une personnalité très affirmée, très forte, avec ses montagnes, avec son lac, avec son calme, je dirais, avec tout ça, bon, avec son patrimoine. Et ce que j'essaie à chaque fois, c'est de renforcer ces caractères.
À Lyon, vous aviez rencontré une forte opposition. Avec quel argument avez-vous réussi à convaincre les Lyonnais de transformer cet opéra ? Et argument qui pourrait peut-être être utilisé à Genève.
Les oppositions de Lyon étaient surtout liées à des bagarres politiciennes à l'époque. J'ai fait ce projet avec Louis Herlot et avec Jean-Pierre Brossman, qui étaient les directeurs de ce musée, et avec beaucoup de gens qui le voulaient, ce musée. Un architecte ne fait pas un musée contre ses clients ou contre ceux qui sont autour. Simplement, ils ont annoncé progressivement un prix parce qu'ils n'avaient pas prévu le prix qu'il fallait. C'était pas une très bonne méthode pour rendre le musée populaire. L'un dans l'autre, le musée s'est fait, même dans des conditions qui étaient un peu difficiles, parce que justement il n'y a pas eu les prévisions qu'il fallait pour cet opéra. J'ai pas dit musée là, on parle bien de l'opéra de Lyon. Ce qui convainc à chaque fois les personnes, je crois que c'est le projet lui-même, c'est le sens du projet. On construit à chaque fois pour une ville, pour des personnes qui vivent cette ville, et chaque architecture, c'est une sorte de don. Donc, où il est perçu positivement, où il ne l'est pas. Ensuite, les questions politiciennes ou les questions de bagarre sur le sexe des anges, ça arrive toujours. Hein, mais ça, en général, ce n'est pas des questions qui sont liées à l'architecture, elles sont liées à autre chose.
Et pour un architecte, travailler sur le corps d'un musée, est-ce différent d'un autre édifice ?
Bien sûr, tous les programmes sont différents. Mais pour moi, ce qui m'intéresse dans les musées, c'est de considérer qu'ils sont vivants. J'ai toujours une vieille réticence sur le musée à partir du moment où c'est un lieu comme ça à l'écart de la vie et où sont stockés des objets morts. Il faut que tous les objets qui sont là restent dans la vie. Donc ce qu'on fait ici, et ce que je fais dans tous les musées que je fais d'ailleurs, que ce soit au Quai Branly ou ailleurs, ou au Louvre Abu Dhabi, tout ça, c'est de les considérer comme des fragments de la ville et les rendre les plus vivants possibles.
Genèveactive.ch